France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
C'est lamentable que des gens puissants incitent des paysans à commettre les crimes et que ce soit eux, ces paysans, qui soient punis alors que les puissants s'en sortent.
En France, il y a beaucoup de génocidaires. Et on se demande pourquoi la France, si elle n'a pas une part de responsabilité dans le génocide, pourquoi continue-t-elle à garder ce génocide chez lui sans être poursuivi?
Le génocide, c'est un crime contre l'humanité, hein. C'est le crime des crimes, donc c'est essentiel de se souvenir et tant qu'il est temps, juger. Or, dans 20 ans, il y aura encore en France des génocidaires qui n'auront pas été jugés.
La France a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Dans ce discours prononcé il y a 2 semaines à Kigali et inspiré du rapport du Clerc, Emmanuel Macron reconnaissait, je le cite encore, la responsabilité accablante de la France dans un engrenage qui a abouti au pire. Le pire, l'extermination des Tutsis par les extrémistes Hutus d'avril à juillet 1994. En l'évoquant, le président reconnaissait une dette envers les victimes et promettait de poursuivre l'œuvre de justice. Dans ce domaine, la France n'a jusqu'à présent pas été exemplaire. Une centaine de génocidaires rwandais seraient encore réfugiés sur le territoire français. Félicien Kabouga, considéré comme le grand financier du génocide, n'a été arrêté que l'an dernier à Asnières. Agathe Abiarimana, soupçonnée d'avoir orchestré la préparation du génocide au plus haut niveau, vit toujours dans l'Essonne. Aloïs Ntiwiragabo, ancien chef des renseignements militaires, se trouverait lui aussi en France. Depuis 27 ans, cette impunité est intolérable pour les Rwandais qui voient dans l'inertie de la justice française une forme de complicité. 42 demandes d'extradition rejetées, 30 plaintes déposées et jusqu'à présent seulement 3 génocidaires condamnés par des tribunaux français. Alain Gauthier pourtant ne baisse pas les bras. Depuis 2001, cet enseignant français se bat avec sa femme d'Afrosa pour que les génocidaires soient jugés. Il arpente le Rwanda pour enquêter et rassembler des preuves. Un travail de longue haleine qui a valu au couple le surnom de Klarsfeld du Rwanda. Rwanda, l'interminable traque des génocidaires, c'est un reportage signé Claude Guibal et Jérémy Thuil. Nous accueillons aujourd'hui la journaliste Maria Malagardis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste Afrique du journal Libération. Le génocide des Tutsis est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et dans un livre sur la piste des tueurs rwandais paru chez Flammarion en 2012, vous avez rendu compte de cette mission d'enquête dont se sont emparés D'Afrosa et Alain Gauthier. Alain Gauthier que Claude Guibal a rencontré sur le terrain. Bonjour Claude.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes allé à Kigali à l'occasion de la visite présidentielle et vous avez accompagné Alain Gauthier au mémorial et sur les lieux du génocide. Et ces quelques jours de reportage vous ont profondément marqué.
Oui, c'était très marquant parce que au moment de ce génocide, Aurélie, j'avais une vingtaine d'années et je me souviens vraiment de ma sidération absolue, hein, de ce brouillard dans lequel on entendait tous ces mots, Hutu, Tutsi, FPR, miliciens interamoués, opération turquoise, ces mots, on les entendait tous les jours et on sentait qu'ils recouvraient en quelque sorte une réalité qu'on devinait vertigineuse mais sans vraiment être capable, en mesure, hein, de la comprendre. Et ce génocide et ses suites, eh bien, des journalistes exceptionnels l'ont couvert, décrypté, avec acharnement depuis 25 ans, ils sont 27 ans même, ils sont hantés par cela. Alors bien sûr, pour ne citer qu'eux, on peut parler de Patrick de Saint-Exupéry, de Jean Hatzfeld, ici à France Culture, Laure de Vulpian, vous, Maria Malagardis, vous étiez aussi sur place. Et pendant 27 ans, eh bien, ces journalistes, ils ont travaillé pour faire éclater, établir enfin une vérité face au déni total de l'État. Et alors ce travail des journalistes, c'est aussi l'importance de ces témoignages ramenés sur le terrain. S'il n'y avait pas eu ces témoignages, s'il n'y avait pas eu ces rapports de choses qui ont été vues, eh bien on ne saurait pas ce qui s'est passé à certains endroits comme à Bicêtre par exemple. Et on voit en quoi le travail et la fiabilité et la rigueur du travail de ces journalistes, c'est aussi ce qui donne la matière pour les historiens pour contribuer à faire ce travail de mémoire qui est essentiel.
Un travail de mémoire auquel s'attelle aussi Alain Gauthier. Votre reportage en sa compagnie débute dans l'ouest du Rwanda.
Là, on est sur cette petite route là qui domine le début du lac Kivu. Là.
Voilà, donc on prend la direction de Mubuga. La route épouse un peu tous les lacets du lac. Entre novembre et décembre, aux Assises de Paris, on va beaucoup évoquer tous ces lieux. Ça fera 3 dossiers pour nous dans la région. puisque Mubuga, c'est pour l'abbé Itayezu. On aura Charles Toagila pour l'hôpital et Claude Moaimana comme milicien. C'était un milicien qui a aidé à transporter les génocidaires sur les collines de Kitkwa et Bisesero. Là où on arrive, là, à ce croisement, les Inera Amwe avaient leur lieu de rendez-vous pour partir en voiture en direction de Bisesero pour aller tuer les Bassesero, les habitants là-bas. Et ils partaient d'ici. Là, on arrive donc sur cette route qui mène à l'église et un peu plus loin, au Home Saint-Jean. Ça a été un des grands lieux de massacre ici, à Kibouyé. Si vous voulez, ici, c'était un piège hein, parce que c'est une presqu'île. Si bien que les rescapés qui s'étaient rassemblés ici à l'église, bon, ils ont tous été massacrés là. Ou bien ceux qui sont allés un peu plus loin, au Home Saint-Jean, et d'autres ont été obligés de se jeter dans le lac parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue possible. Donc un certain nombre se sont noyés dans le lac. C'est vraiment ici, c'est un grand lieu du génocide. Muhaimana, c'était cette maison-là. Là, le portail gris. Il habitait en face du stade. Et lui, il prétend n'avoir pas été là le jour où les massacres ont été commis dans le stade. Il a un alibi. Il affirme qu'il est parti pratiquement 15 jours. Alors évidemment, il dit qu'il est parti, donc il n'était pas là quand il y a eu les massacres à l'église, au Home Saint-Jean, au stade, alors que moi, je suis persuadé qu'il était là. Et des témoins qui l'ont vu. On verra comment se déroule le procès.
Comment il a été retrouvé ?
C'est quelqu'un qui le connaissait, qui vivait aussi, je crois, à Rouen, qui nous a signalé sa présence. Et du coup, on est venu enquêter ici, comme on le fait chaque fois, hein, sur les lieux mêmes des crimes. Et on a trouvé effectivement beaucoup de témoins qui l'accusaient. Et les juges sont venus ensuite ici en commission rogatoire et je pense qu'ils ont trouvé encore beaucoup plus de témoins que nous parce qu'ils enquêtent et à charge et à décharge, mais c'est leur travail. Nous, une fois qu'on a déposé la plainte, nous, notre travail était fini jusqu'au procès.
Quand vous arrivez et que vous posez des questions comme ça, on vous demande pourquoi, est-ce qu'il y a de la méfiance sur le fait que voilà, ce soit vous et pas la justice directement?
Alors une méfiance, je ne sais pas. Toujours est-il que nous, on vient, je dirais très, très humblement, très simplement, hein, on rencontre les gens, on leur dit voilà, on a appris que telle personne soupçonnée d'avoir participé au génocide était originaire d'ici. On vient au nom d'une association. Si vous connaissiez ce génocidaire et que vous avez envie de nous confier votre témoignage, ben voilà, on est là pour les recueillir. Mais il y a tout un travail avant de mise en confiance, quoi, hein. Et quand il s'agit de génocidaires qui ont eux-mêmes déjà été condamnés et qui sont en liberté, c'est la même chose, hein. On leur demande s'ils sont d'accord pour témoigner. En général, ils n'hésitent pas trop.
L'un des prochains procès, celui du prêtre Marcel Iayezou, réfugié en Charente-Maritime, a pour cadre cette petite église au bord de la route. Dans l'école voisine, des enfants jouent.
Donc c'est l'église de Mubuga.
C'était quand même une grande église. Hein. Ça veut dire qu'il devait y avoir du monde pendant le génocide.
On peut imaginer qu'il y a eu quelques centaines de personnes.
Ah oui, des milliers même.
Et donc ici ?
Ben ici, se sont réfugiés, les rescapés qui arrivaient de un petit peu partout de la région aussi, hein, pas seulement de Mubuga. Il y en a qui avaient fui Kibouyé. Et puis ceux qui ont pu sortir de là, ceux qui ont pu échapper, sont partis. Certains sont partis sur Bisesero.
Et là, l'église, elle a été attaquée.
Oui, l'église a été attaquée. Je pense même qu'ils ont tué dans l'église. Ou le prêtre, donc Marcel Itayezu. Voilà, donc les rescapés reprochent au prêtre déjà d'avoir fait couper l'eau. Donc ils ne pouvaient plus se ravitailler en eau et d'avoir détourné toute l'aide alimentaire qui devait arriver pour les rescapés, qui aurait été donnée plutôt aux miliciens qui étaient là.
Quand vous venez ici, ça vous permet de...
Pour nous, c'est très important hein, de s'imprégner des lieux, parce qu'on se rend compte, au moment des procès, par exemple, c'est un avantage pour nous. Quand on parle de l'église de Mubuga, bon, ben, tout de suite on la resitue, on voit les issues, où elles étaient, on voit où étaient les portes, on voit par où les rescapés ont pu peut-être s'enfuir. Voilà, quoi, c'est important d'avoir une connaissance des lieux.
Vous sentez la charge de ces lieux ?
Oui, forcément. Quand on sait ce qui s'y est passé,
c'est toujours des lieux très chargés de je dirais, de mauvaises ondes. Ah, il y a peut-être, là, il y avait peut-être des fosses communes. Hein.
Oui, parce que là, on est devant l'église. Oui. Là,
et puis c'est marqué. Hein, c'est des grosses dalles.
Oui, la terre est retournée.
Oui, oui. Puis regardez ces grosses dalles de ciment qui ont été renversées. C'était forcément des tombes. Ça ressemble bien à ça.
L'église, le stade, l'auberge de jeunesse en haut du promontoire, les eaux étales du lac Kivu, rien. Pas un lieu n'échappe à cette géographie mémorielle, ni toutes ces collines à perte de vue, aux flancs bleuis par les eucalyptus. La voiture grimpe, fatiguée, elle cahote entre les éboulis de terre rouge. On croise des coupeurs de bois, des paysans aux longs bâtons, chapeaux vissés sur le crâne. La piste est mauvaise, longue.
Bien sûr, tu me connais.
Oui.
Ça va ?
Ça va.
Ben, il faut avoir envie de te rencontrer, hein ? Il y avait longtemps.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Claude.
Enchanté.
Bonjour.
Où est-on ici ?
Nous sommes à Bicicero. Toute cette région que vous voyez là-bas, c'est Bicicero.
Toutes ces collines.
Toutes ces collines, oui.
Bicicero. Ce nom glace tous ceux qui le prononcent. Dans ces collines à 3000 mètres d'altitude, se niche, difficile d'accès, un mémorial où reposent les restes de 50 000 victimes du génocide.
Les visiteurs doivent être...
L'homme qui retrouve Alain Gauthier s'appelle Eric Nzabiimana. Le 27 juin 1994, il est là lorsque les soldats français de l'opération Turquoise pénètrent dans les montagnes de Bicicero où se bat depuis des semaines la résistance Tutsi. Un mois plus tôt, un massacre a fait 30 000 morts en deux jours. Ceux qui restent sont comme des morts vivants, affamés, cachés dans des trous.
Voyant que c'était des Blancs, je me suis dit, c'est bien, ce sont des Français qui viennent à notre secours. Je me suis interposé sur la route en criant fort que nous sommes en danger. J'ai appris que vous venez pour nous sauver, alors sauvez-nous. Le long de la route, il y avait beaucoup de morts. Il y a ceux qui étaient en train de se décomposer, il y avait d'autres qui étaient encore frais, il y avait même ceux qu'on avait tués ce jour-là. J'ai été obligé de leur montrer des cadavres. Je leur ai dit, nous sortons de nos cachettes, les générales nous voient sur la colline, ils vont tous nous tuer parce qu'ils ont découvert que nous sommes encore là. Donc, mais ça sera la fin. Alors, ils ont dit, non, nous ne sommes pas prêts pour aujourd'hui pour vous sauver. Il faut que vous restiez dans vos cachettes et nous pourrons revenir dans deux ou trois jours.
Trois jours pendant lesquels les massacres se déchaînent. Lorsque les soldats français reviennent, il ne reste plus que quelques survivants, dont Eric Nzabiimana. Ils ont porté plainte, accusant l'armée de les avoir abandonnés. Après 15 ans d'instruction, le parquet de Paris vient de requérir un non-lieu.
La France a une part de responsabilité dans le génocide depuis le début. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de complicité, moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne l'admets pas, je ne peux même pas l'accepter. La justice n'est pas là.
Quelqu'un vous a demandé pardon un jour ?
Un certain Roïsa Jean-Baptiste qui a tué ma petite sœur Hélène, il a tué le 13 avril. Alors ce monsieur, c'était un enseignant, un collègue à moi, parce qu'à l'époque j'étais enseignant. Il a été mis en prison. Et lorsqu'on a commencé la politique à demander aux génocidaires d'avouer les crimes pour qu'ils puissent avoir un allègement de peine, il m'a envoyé une longue lettre me disant que c'est bien lui qui a tué ma petite sœur. Je ne le savais pas. Et il m'a aussi indiqué le lieu où on a mis son corps. J'ai senti un soulagement et c'est pourquoi je lui ai pardonné. Ce qui nous cause des problèmes aujourd'hui, c'est que il y a les nôtres que nous ne savons pas comment ils ont été tués, où on a mis les corps. C'est ce qui nous fait marre, quoi.
Quand vous apprenez justement qu'on arrête quelqu'un,
Ah, on se sent un peu soulagé quand même. Si par exemple, nous connaissons qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de génocidaires. Et on se demande pourquoi la France, si elle n'a pas une part de responsabilité dans le génocide, pourquoi continue-t-elle à garder ces génocidaires chez lui, sans être poursuivi ou amené au Rwanda comme ça se fait dans d'autres pays, soit en Amérique, au Canada, en Europe? Pourquoi pas la France? C'est comme un parent qui protège sa famille, quoi.
Parce qu'en France, on a encore des grands personnages.
Il y a beaucoup. La France est en mesure de juger ces gens. Pourquoi? Elle ne le fait pas. Si elle n'est pas, si elle ne veut pas les juger, pourquoi ne pas les estrader à Kigali pour qu'ils soient jugés?
Normalement, ça devrait être la loi, hein. Oui. Out tedere, out judicare. Ou bien on donne au pays qu'il demande, ou bien on juge. Ça, c'est un adage qui date de l'Antiquité. Et normalement, il s'applique encore aujourd'hui. Hein? Mais le problème, c'est que la France a refusé déjà 42 reprises d'extrader. Et malheureusement, une fois que les décisions sont prises, on ne peut plus revenir en arrière. Donc la France, la Cour de cassation, pourrait éventuellement changer de jurisprudence. C'est-à-dire accepter à partir de maintenant d'extrader les génocidaires qu'on retrouverait en France. Mais pour ceux pour qui la décision a été prise, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut absolument que ces gens-là soient jugés.
Ils soient jugés en France, alors. S'ils ne sont pas extradés, il faut qu'ils soient jugés en France.
Père, mère, frère, sœur, oncle, tante. Dans la famille d'Éric, sur plusieurs dizaines de personnes, seuls 3 ont survécu. Tous ceux dont on a retrouvé les restes gisent ici, dans le mémorial qui surplombe la mer de Colline.
Ça, ce sont des corps des victimes. 1040 corps des victimes et les autres corps sont enterrés dans la tombe commune.
On voit ce qui a été le crâne défoncé.
Les coups de lance, là, ou de machette. Voilà, par exemple celui-là.
Chaque fois qu'on ouvrait des fosses communes, la première chose qu'on fait, c'est de laver les ossements. C'est surtout les femmes, en fait, qui le font, dans l'expérience que j'ai eue. On a des bassines successives, on trempe les crânes avec des brosses à dents, on nettoie, on enlève la terre des yeux, enfin, et puis après, jusqu'à ce qu'ils soient très propres, on les fait sécher, jusqu'à ce qu'ils soient très très propres, et après on peut les inhumer dignement, ce dont on les avait privés.
On arrive à la fosse commune qui est en haut du mémorial, après un long chemin très pentu, destiné à montrer la souffrance du martyr des habitants de Bicécéro pendant le génocide, obligés de se cacher dans ces collines qui nous entourent à perte de vue. Et voilà la fosse commune, avec ses stèles. Nous sommes dans le centre du pays, un lieu que l'on n'identifiera pas. Alain Gauthier est venu là recueillir des témoignages qui pourraient lui servir pour porter plainte contre un génocidaire présumé caché en France.
D'accord. Donc ça, pour chez moi, c'est des noms qui reviennent dans les dossiers. C'est-à-dire qu'ils sont cités dans les dossiers, probablement que ce sont des gens qui ont participé au génocide, hein, mais qui n'ont probablement jamais été interrogés non plus. Par contre, ceux aussi qui m'intéressent, j'aimerais beaucoup rencontrer ces deux-là, on n'a pas de nouvelles.
Ah, d'accord.
Parce que alors, là, j'ai deux noms. Oui. Ce sont des gens qui ont déjà témoigné. Oui. Et je voudrais éventuellement, s'ils sont toujours en vie, leur demander s'ils sont toujours prêts à témoigner de nouveau. Mais on va commencer par un.
Ce travail d'enquêteur, c'est pas un travail qui s'improvise?
Si, en fait. Au tout début, on a commencé d'abord par se constituer partie civile dans 6 plaintes qui avaient déjà été déposées, mais aussi
à venir au Rwanda pour essayer de nourrir ces plaintes-là qui n'étaient pas suffisamment nourries pour que les juges d'instruction s'y intéressent. Donc on a beaucoup travaillé comme ça pendant plusieurs années. Et puis je crois que la première plainte que le collectif des parties civiles a déposée, c'est contre Agathe Abialimana au mois de février 2007. Et là, les choses se sont enchaînées. Depuis, on en a déposé une trentaine, ce qui nous oblige à venir plusieurs fois par an au Rwanda pour rencontrer des témoins, des victimes, des tueurs en liberté, d'autres sont en prison. Voilà, c'est un travail d'enquêteur, mais auquel nous n'étions pas du tout préparés.
Alain Gauthier était enseignant. S'il est devenu ce chasseur de génocidaires, c'est qu'un jour, sa vie et celle de son épouse rwandaise Dafroza a basculé.
En février, je crois que c'était autour du 20 février 1994, Dafroza vient à Kigali voir sa mère. Et quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'elle était tombée dans un nid de guêpes. Tout de suite, elle a bien réalisé que les choses n'allaient pas du tout. On a bien senti à ce moment-là, hein, puisqu'elle a écourté son séjour, sa mère lui a dit « Écoute, ma fille, tu as un mari, tu as des enfants, il faut que tu repartes, on se reverra probablement plus. » Et effectivement, Dafroza, elle est rentrée en France. Et un mois après, pratiquement, eh bien, c'était l'attentat contre l'avion du président Abialimana et le début du massacre. Mais les massacres avaient déjà commencé dans la ville de Kigali. On voyait des cadavres dans les caniveaux. La Croix-Rouge venait, mais c'était pour ramasser les corps. Voilà, la tension était extrême.
Comment vous avez vécu ces jours-là en France? C'est vous qui avez appris la mort de votre belle-mère quelques jours après?
Oh, c'est même pas quelques jours après, c'est le lendemain, le 8 avril. Je téléphone à la paroisse où elle s'était réfugiée avec une cousine. Et quand j'ai rappelé, vers 16h, je crois, eh bien, le père Henri Blanchard me dit, ben oui, la maman d'Afrosa est morte ce matin. Elle a été tuée dans la cour de la paroisse. Et puis j'ai pu avoir, mais très rapidement, au téléphone, et ça a été la dernière fois, notre cousine Geneviève, qui sera, elle, exécutée quand la paroisse va être attaquée, début juin 1994. Et son mari, notre cousin Canisius, lui, a été tué à 3 jours d'intervalle. Il a été fusillé à pas 200 mètres de la paroisse avec 70 autres personnes.
Vous avez perdu combien de personnes de votre famille?
Oh, c'est excessivement difficile à savoir. On dit toujours une centaine. Toute la branche maternelle de Dafroza a été exterminée. Nous n'avons retrouvé personne. Véritablement personne.
Alors, on est ça?
Dans cette petite pièce au mur jaune, les témoins se succèdent, un à un. Sur un grand cahier bleu, Alain Gauthier note, barre, souligne.
Donc c'est Clément qui va traduire.
Oui.
Donc j'ai souhaité le rencontrer, parce que dans le dossier que je traite, j'enquête dans le dossier de... Bon, on va s'asseoir.
Oui.
Donc il s'appelle... Nibdio. Il est originaire d'ici?
Comment Cameroun? Oui.
Et pendant le génocide, il était ici? Parce que son nom a été donné par des témoins.
Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il a été lui-même condamné, s'il a été jugé pour génocide, s'il a été condamné, mais si c'est le cas, ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est pas sur lui que je veux enquêter, évidemment. Hein. Et c'est important pour moi de savoir si... Il est mêlé au génocide.
Ouais. Même les autres que j'ai cités, il ne faut pas qu'ils sachent.
Oui, je ne vais pas dire de qui. Bon, c'est bien. Après, il faut que j'élimine tous ceux qui sont morts ou en fuite, pour clarifier un peu ma liste.
Diego, Caribou.
Merci.
Le dernier homme qui rentre a le regard fixe, les joues plus émaciées.
J'aimerais lui donner un certain nombre de noms.
Certains noms énoncés le font réagir.
S'ils sont toujours en vie.
Lui est sorti de prison il y a 3 ans. Il a pris 15 ans pour pillage et crime de génocide. Mais lui dit qu'il n'a pas tué.
Les camions de la commune avaient été utilisés pour aller chercher les Tutsis dans les églises et dans tous les endroits où ils se cachaient et où les avaient amenés ici. Ce sont ces policiers-là qui les ont tués. Une fois qu'ils furent tués, ils ne savaient pas où mettre les corps. C'est là qu'ils sont venus me chercher et m'ont forcé à utiliser mon véhicule pour transporter les corps où ils les ont jetés.
Il y avait beaucoup de corps?
Je les ai transportés à des voyages, mais il y avait d'autres véhicules que le mien. Moi, j'ai fait des trajets, j'ai transporté une dizaine de corps à chaque fois.
Vous, vous avez fait 15 ans de prison ici. Des hommes sont cachés en France, réfugiés, alors qu'ils ont fait des choses. Comment vous réagissez à ça?
Après la visite d'Emmanuel Macron et son discours, j'étais content. C'est lamentable que des gens puissants, des officiers, ainsi que des paysans, des gens simples, à commettre les crimes et que ce soit eux, ces paysans, qui soient punis alors que les puissants s'en sortent. Moi, par exemple, j'ai été emprisonné 15 ans. Mes enfants n'ont pas eu de père pour s'occuper d'eux. Alors que ces puissants, et ils étaient avec leur famille. Ça nous réjouit de les voir traduits en justice. Parce que ces gens qui étaient là, ils avaient la possibilité de stopper le génocide. Or, au contraire, ils ont poussé déjà à y participer. Et après, eux, ils se sont enfuis avec leur famille. Maintenant, une petite vie tranquille, à laisser tous les autres derrière. Nous, nos enfants, ils sont devenus comme des orphelins quand nous étions en prison. C'est triste. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient jugés.
C'est le problème, c'est que souvent, ils se disent, voilà, après. Je pense qu'ils ne disent pas forcément tout. On entend, hein, ce sont ses paroles, c'est son témoignage. C'est vrai qu'il y en a qui ont été condamnés alors qu'ils étaient innocents. Maintenant, c'est assez fréquent quand même que beaucoup n'arrivent pas à reconnaître et à dire les crimes auxquels ils ont participé.
Vengeance, résilience, pardon, réconciliation, impossible réparation. Entre déni politique et inertie de la justice, 27 ans après l'horreur du génocide, la présence de génocidaires présumés en liberté, en France, en Belgique, en Allemagne, est une blessure à vif pour le Rwanda.
Où est-ce qu'on va, là, Alain Gauthier?
Alors là, on va au mémorial de Gisozi, c'est-à-dire le plus grand mémorial du Rwanda concernant le génocide des Tutsis. Je crois qu'on dit qu'il y a 250 000, peut-être plus, corps de victimes de toute la ville de Kigali. C'est indispensable que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé, parce que sans mémoire, on peut très vite retomber dans la tragédie.
Et est-ce qu'en France, vous avez le sentiment que l'opinion publique, les gens, savent ce qui s'est passé au Rwanda ?
Ah non, je ne pense pas. Vous savez, pour s'intéresser à un génocide qui a eu lieu il y a 27 ans, je pense qu'il faut y être mêlé de très près. Vous savez, un jour, quand même, je rapporte toujours cette anecdote, j'étais chez le coiffeur et une jeune employée qui me demande, mais le génocide, en fait, c'est un virus ?
Lorsque vous êtes amené à dire qu'il y a des génocidaires qui sont réfugiés en France, comment on réagit autour de vous ? Les gens le savent ?
Ah non, les gens ne le savent pas forcément. Hein. D'ailleurs, dès qu'on en débusque un, presque aussitôt, tous ceux qui les connaissent s'offusquent en nous accusant d'être des, comment on appelle ça, je mets entre guillemets, des chasseurs de Hutus. Ceux qui sont en France, ce n'est pas les petits Inerahamwe, hein, c'est souvent des gens qui avaient des responsabilités ici, des bourgmestres, des préfets, des médecins, enfin voilà. Et puis vous savez, depuis qu'ils sont en France, ils se sont réinstallés, ils se sont refait une virginité, ils n'évoquent pas leur passé. Et il se trouve que ce sont souvent d'excellents médecins, d'excellents voisins, d'excellents parents, d'excellents chrétiens, enfin voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est compliqué à faire admettre. Et j'imagine que dans les plaintes qu'on prépare et qu'on déposera, on aura ce type de réaction.
Voilà, on est en train d'arriver là, devant le mémorial du génocide des Tutsis à Gisozi.
Et ce mémorial, il est sur une colline qui fait face à Kigali, dont on voit les maisons, les tours. Allez, on y va.
À l'entrée du mémorial, des paroles de rescapés accueillent les visiteurs.
Ma mère est allée se réfugier avec mes sœurs chez les voisins. Elle a supplié le voisin de nous cacher, mais il a refusé. Elle pensait qu'il ferait tout pour nous protéger. Au contraire, il a ameuté les tueurs pour découper ma mère à la machette. Leur fils a révélé aux miliciens où étaient mes frères et sœurs, qui jouaient avec leurs enfants. Quand le petit a appelé ma mère et qu'ils l'ont vu, ils l'ont découpé à la machette sur le champ. Nos familles se rendaient visite. Maintenant, je pense qu'il est difficile de faire confiance aux gens. Comme nous approchions de la barrière, ils demandèrent la carte d'identité de ma mère. C'était marqué Tutsi, mais elle avait essayé de changer avec Hutu pour montrer qu'elle était Hutu. Ils lui dirent immédiatement « Tu vois, tu veux te changer en Hutu, mais nous voyons bien que tu es Tutsi. » Ils lui ont asséné un coup de machette au bras. Ils ont écrasé ma petite sœur contre le sol, cogné sa tête, et ils les ont découpés pendant que nous nous sommes enfuis.
Là, on a tout l'historique du génocide, comme c'est bien marqué, avant, pendant, après, on verra.
Et alors là, on voit sur le mur cette reproduction de ce qui semble être comme une carte d'identité.
Carte d'identité qui a été instaurée par les Belges en 1931 et qui indique effectivement, oui, peuplade, race. Donc là, vous voyez, on mesurait, il y a eu des catégorisations, on mesurait le nez, la longueur du nez, la forme du visage.
On établissait des critères physiques.
Voilà, on établissait des critères physiques pour distinguer les gens. Voilà nos chefs d'État, Kayibanda, Habyalimana, et puis Mitterrand avec Habyalimana. Mitterrand, l'ami du Rwanda.
Comment vous le viviez, vous, à l'époque, là, ce rapprochement entre le Rwanda et la France de François Mitterrand?
En 1990
oui.
Vous savez, on connaissait bien le régime Habyalimana, on savait bien que les Tutsis n'avaient pas leur place dans le pays, mais pratiquement aucun Tutsi n'était dans l'armée. Voilà. Moi, j'avais écrit à François Mitterrand pour dénoncer la situation, et donc j'ai reçu, bien sûr, une réponse... type un peu diplomatique, le ministère des Affaires étrangères également m'a répondu, mais bon, ça n'a rien évité.
Et là, cette photo, qu'est-ce qu'on voit là?
Alors ça, ce sont les miliciens, hein, les Inerahamwe, qui ont été recrutés parmi les jeunes. Certains de ces Inerahamwe-là ont été entraînés par des militaires français. J'ai le souvenir d'un militaire de Turquoise, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait entraîné des tueurs comme ça, et je crois qu'il s'est effondré, en disant « dire que j'ai entraîné ces gens-là ». Voilà, donc on est devant des photos à la fois de massacres et en même temps des grands responsables du génocide. Ici, vous avez tout le gouvernement. Alors, sur cette photo... Celui-ci, c'est Hyacinthe Rafiki, Tsangiyumba, qu'on poursuit en justice, puisqu'il habite la banlieue parisienne. Ah oui, ben voilà, c'est ce que je pensais. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans l'église de Narama.
Elle est terrible, cette image, hein,
oui.
Qu'on voit.
Alors nous, on y est allés, alors qu'il y avait encore tous les corps dans l'église, tous les corps sur les bancs, entre les bancs, en 96, rien n'avait bougé encore.
Les corps étaient restés
oui.
dans l'église.
Et donc, on avait tous ces gens-là, avec des odeurs de pourriture, évidemment. On a vu tous ces cadavres-là. Il y avait même encore des cahiers d'écoliers qui volaient au vent, des pages de cahiers arrachés. Il y a quand même des des photos insupportables, hein, des images insupportables. Regardez cet enfant.
Qui a pris un coup de machette.
Un coup de machette, bien sûr. Et on se demande comment on peut survivre à des blessures pareilles. Hein. Oui, ils aiguisaient les machettes là, sur les pierres. Mon Dieu.
Ce sont des images insoutenables. Hein,
ouais, c'est insoutenable.
D'enfants qui ont reçu des coups de machette dans le crâne, les doigts coupés, brûlés.
La main coupée, les doigts coupés.
Le 27 mai dernier, c'est après avoir vu ces images qu'ici même, Emmanuel Macron a prononcé son discours demandant pardon, reconnaissant la responsabilité de la France.
Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner.
Là, nous sommes dans les jardins, devant au pied du mémorial, devant ces grandes dalles, ces fosses communes. Il y a quelques couronnes de fleurs qui ont été posées, des petits bouquets qui sèchent.
C'est là où nos morts peuvent trouver un peu de repos, dans un cadre qui est agréable. Hein, on entend le chant des oiseaux, au loin le bruit de la ville, bien sûr, mais bon, c'est un lieu paisible. Bon, c'est impossible d'oublier, hein, de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que ce sont les générations futures qui doivent se souvenir. D'où l'importance de la transmission de la mémoire auprès de nos enfants déjà, et puis de toute la jeunesse du Rwanda, même de la jeunesse du monde entier, puisqu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité, hein, c'est le crime des crimes, donc ça concerne l'homme. Donc c'est essentiel de se souvenir. Se souvenir et, tant qu'il est temps, juger.
Parce que l'impunité, justement.
Ah ben, l'impunité fait le lit du négationnisme. Pour nous, la justice, à la limite, il n'y a plus que ça qui est un autre pouvoir. Le génocide a eu lieu, il ne nous reste que ça. Et il ne nous reste pas beaucoup d'années, parce qu'à l'âge où on est, faut pas rêver. Hein. Il ne nous reste pas 20 ans pour nous battre. Or, dans 20 ans, il y aura encore en France des génocidaires qui n'auront pas été jugés.
Et de moins en moins de témoins.
Bien sûr. Dans les nouveaux dossiers qu'on a, parfois difficile de trouver des témoins. Parce que soit ils ont disparu, soit que la mémoire s'efface, soit que certains ne veulent plus témoigner.
Alors là, on passe devant ce mot qui est écrit, Kwibuka. Qu'est-ce que ça veut dire, Kwibuka?
Kwibuka, souviens-toi. Ce souvenir, c'est extrêmement important pour les victimes.
Kwibuka.
Souviens-toi. Bon, on n'a plus que ça à faire, si ce n'est, quant à nous, le combat pour la justice. Mais sinon, le génocide, on vit avec. Il est, je dirais, il est omniprésent. Il fait partie maintenant de notre vie, à la fois de notre vie familiale, notre couple, les enfants, les petits-enfants. Voilà, je crois qu'on ne sort jamais d'un... On ne guérit jamais d'un génocide.
L'interminable traque des génocidaires rwandais, un reportage de Claude Guibal et Jérémy Thuil avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Maria Malagardis, journaliste à Libération, spécialiste de l'Afrique, est l'invitée de Grand Reportage. Alors, vous connaissez bien hein, Daphrosa et Alain Gauthier, vous leur avez consacré un livre. Combien de temps leur a-t-il fallu avant de voir leur travail reconnu, considéré comme légitime?
Ah, c'est une bonne question. Ils ont commencé réellement à se structurer en association et à mener cette quête de justice en 2001, après le premier procès contre des génocidaires qui a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, le premier procès en Europe. et qui fut une sorte de déclic pour eux sur la nécessité de effectuer le même genre de démarche et d'initiative en France. Et je crois que jusque quand même aux années 2008-2009, ça restait assez confidentiel. Évidemment, la plainte contre Agathe Abiarimana, qui est donc la veuve du président Abiarimana, a suscité un certain intérêt médiatique, et donc on a commencé un peu à parler d'eux. Mais c'est vraiment au tournant, oui, dans la période qui suit, où on a commencé vraiment à les suivre et à s'intéresser à eux, et aussi dans le même temps à essayer de les dénigrer et de les vilipender, hein, parce que ils ont aussi subi beaucoup de
critiques,
d'attaques très violentes parfois pour le travail complètement indispensable qu'ils menaient, qu'ils ont été les seuls à mener pendant longtemps, puisque la justice française ne s'intéressait absolument pas à la présence de ces présumés génocidaires sur le sol français.
Et alors effectivement, Alain Gauthier parle de ce travail de mise en confiance, hein, qui rend possible le témoignage. C'est que c'est tout un processus et ça n'est qu'une première étape indispensable mais pas suffisante, puisque derrière rien ne garantit que la justice s'en saisisse. Est-ce qu'aujourd'hui quand même il y a une oreille plus ouverte de la part de la justice française quand ces témoignages, ces preuves lui arrivent?
On va voir ce qui va se passer après les déclarations du président Macron. C'est pas tellement la faute des juges. Les juges qui sont chargés de ces enquêtes sont débordés. Ils ne sont pas affectés uniquement à ces dossiers. C'est compliqué pour eux, c'est loin. Il y a eu quand même beaucoup de commissions rogatoires qui se sont rendues au Rwanda. Il y a des juges qui ont fait un très bon boulot. Après, c'est une question de moyens qui leur sont accordés et de reconnaissance de ce travail. Le fait qu'il y ait uniquement eu que 3 Rwandais jugés en 27 ans est quand même hallucinant. Alors, on a 2 procès qui s'annoncent, l'un à l'automne et l'autre en mai prochain. Mais c'est vraiment ça reste vraiment au compte-gouttes. Donc on va voir si les promesses faites à Kigali encore une fois par le président vont être suivies d'un renforcement de ces moyens et d'un coup d'accélérateur.
Alors renforcement des moyens. Alors il y a quand même eu des changements, c'est-à-dire que tout a été rassemblé au parquet de Paris. Il y a une unité chargée de la traque des génocidaires. Est-ce que ça, par exemple, ça a permis d'accélérer les choses, de structurer le travail?
Non, parce que le pôle génocide qui a été créé à un précédent, comme quoi c'est quand même lié à des moments politiques où les relations franco-rwandaises s'améliorent. Le pôle génocide a été créé sous la présidence de Sarkozy, à un moment de rapprochement avec le Rwanda, qui a ensuite été suivi par une nouvelle ère de glaciation. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a eu ce progrès-là, mais les magistrats du pôle génocide n'enquêtent pas uniquement sur les génocidaires rwandais. Donc
ils sont malgré tout débordés.
Il y a une question de temps, de moyens, c'est des enquêtes compliquées avec des noms compliqués, des faits qui se sont déroulés il y a longtemps, où il faut se rendre sur place. Les Rwandais ont leur propre langue, le Kinyarwanda. Il faut des traducteurs. Il faut saisir les nuances de la traduction. Plus le temps passe et plus les témoins ont tendance à confondre les dates, les jours. Déjà, très souvent, même dans les premières années après le génocide, c'était très compliqué de demander à quelqu'un « Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi à 5h du matin, le jeudi 5 mai ?» Parce que quand les gens vivent dans une telle apocalypse, ils ne regardent pas le calendrier tous les jours, donc ils ne se souviennent pas. Est-ce que c'était le 5, le 6, le 7 ? Est-ce que j'étais près de là ? Est-ce que j'étais pas dans la rue suivante ? Par ailleurs, ceux qui sont les plus à même de témoigner sur des gens impliqués dans le génocide sont des gens qui se cachaient. Ce sont les victimes. Alors après, il y a des repentis. Il y a des gens qui étaient du côté des bourreaux qui ont accepté, d'aller de l'autre côté, de dire la vérité et d'aider la justice.
Et qui quelquefois se disent « moi j'étais un peu le lampiste, après tout, il n'y a pas de raison ».
Très souvent, ils ont tendance, ils disent ça, très souvent c'est un moteur. Quelquefois, il y a eu aussi tout un processus de la justice rwandaise qui finalement a accordé des remises de peine à des gens qui faisaient des aveux. pour justement permettre que la vérité émerge. Mais pour vous donner une image à quel point tout ça est compliqué et reste encore, à fouiller, à creuser, en 2019, j'étais au Rwanda pour les 25 ans du génocide, et au même moment, dans un quartier périphérique de Kigali, grâce aux aveux, aux confessions d'un repenti qui était déjà depuis plusieurs années en prison, on a pu situer et découvrir dans cette banlieue, sous des maisons qui étaient construites, des fosses communes. Il y avait 40 000 personnes. Et on a donc dû détruire les maisons. En fait, à la fin du génocide, ils avaient mis des dalles de béton et ils avaient construit les fondations des maisons. Donc on ne voyait même pas qu'il y avait une fosse commune. Et à la suite, évidemment, 25 ans après, les squelettes n'étaient que poussière. Mais curieusement, les vêtements restent. Et donc, ils ont tracé des cordes et ils ont suspendu tous les vêtements pour que les gens puissent venir reconnaître les vêtements de leurs proches. Mais là, on était 25 ans après et on en était encore à découvrir des fosses communes. Je crois que c'est arrivé il y a quelques mois encore dans le centre du pays. Donc, c'est très compliqué tout ça. Et si on ne met pas des moyens suffisants en traducteurs, en chauffeurs, en billets d'avion, si on ne dégage pas des magistrats pour mener ces enquêtes, évidemment, ça continuera avec une lenteur effrayante
et scandaleuse. Et sur cette pression du temps qui passe, on voit par exemple que Félicien Kabouga, qui est soupçonné d'avoir financé le génocide et notamment la radio de propagande, la radio des Mille Collines, il a aujourd'hui des problèmes de santé et son avocat dit que il n'est pas en état d'être jugé.
Ah oui, bien sûr, c'est un octogénaire. Ces gens sont effectivement des vieillards ou des vieilles femmes. Hein, ça c'est certain. Hein, c'est aussi le problème. Certains, il y a des gens qui sont morts sans avoir été jamais jugés, malgré des responsabilités écrasantes. Et les témoins vieillissent aussi, évidemment.
Claude Guibal.
Avec l'arrestation de Félicien Kabouga, justement, l'été dernier, on s'en souvient de cette espèce de sidération à nouveau de l'opinion publique française, de se dire, tiens, un génocidaire de cette ampleur caché à Asnières. Les gens semblent avoir découvert qu'il y avait des génocidaires cachés parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces gens ont quitté le Rwanda, et ont pu partir,
se réfugier
en France et se fondre?
Eric vous le dit bien, pose la question assez assez simplement dans le reportage. En fait, ces gens ont quitté le Rwanda à la fin du génocide en franchissant la frontière avec l'accord de la France, qui avait déployé dans la zone frontalière l'opération Turquoise. Maintenant, on le sait grâce à des télégrammes diplomatiques qui ont été retrouvés, que l'aval du Quai d'Orsay a été donné de ne pas arrêter les génocidaires et de les laisser traverser la frontière. Édouard Balladur, qui était Premier ministre à l'époque, avait dit, il y a quelques temps après le génocide, quelques années après le génocide, avait confessé que Mitterrand n'avait aucune intention d'arrêter les génocidaires hutus. Je cite de mémoire sa phrase, mais c'était plus ou moins ça. Donc il y a eu une volonté de laisser échapper ceux qui, pour certains, à l'Élysée et à Paris, étaient encore nos alliés, qu'on va par ailleurs continuer à aider et à soutenir une fois qu'ils se seront installés dans les camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière, ce qui est quand même la chose la plus... je veux dire, quelque part, l'erreur ultime. On peut se tromper d'alliés, on peut, comme disent certains, s'aveugler, mais une fois le crime commis, continuer à réarmer ces gens-là, c'est pas possible. Et bien évidemment, un certain nombre de ces gens vont bénéficier de billets d'avion pour venir en France. Et ceux qui n'auront pas ce privilège, de toute façon, beaucoup d'entre eux se diront que, bien évidemment, il n'y aura pas de terre plus protectrice que la France. Donc, alors beaucoup sont allés aussi en Belgique. Et après, il y a bien sûr la facilité de la langue, pays francophone. Donc, la Belgique et la France en Rwanda étaient les deux destinations principales. Mais en France, et ils n'ont pas eu tort pour beaucoup d'entre eux, ils ont bénéficié de passe-droit assez suspects. Certains ont été naturalisés français. Beaucoup ont eu le statut de réfugiés. Et la plupart n'ont pas été inquiétés.
Mais la Belgique a changé de position avant la France.
Oui, la Belgique enfin, abrite encore, elle aussi, un certain nombre de gens qui sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans ce génocide. Mais disons que, d'abord, la Belgique a clarifié sa position par rapport au drame beaucoup plus rapidement et beaucoup plus nettement que la France. Il faut savoir que dès 2000, le premier ministre belge de l'époque, Guy Verhofstadt, se rend à Kigali et dit « Je présente les excuses de mon peuple et de mon pays pour ce qui s'est passé pendant le génocide ». On est quand même loin, même si le discours du président Macron à Kigali le 27 mai marque une étape fondamentale. Là, c'était très net, 21 ans plus tôt, le premier ministre belge, la phrase, elle était claire et nette, c'était pas une circonvolution, on posait les choses telles qu'elles sont. Ils ont très vite mis en place des commissions d'enquête sénatoriales qui allaient beaucoup plus loin que la commission d'information parlementaire qu'on a mis en place en France, et ils ont organisé des procès beaucoup plus tôt que nous et concernant beaucoup plus de personnes.
Claude ?
À Kigali, le 27 mai, à l'occasion de cette visite d'Emmanuel Macron dont vous parlez, de cette étape importante, Paul Kagame et Emmanuel Macron ont tous les deux répété qu'il était temps de tourner la page. Est-ce que cette réconciliation ou ce travail de réconciliation entre la France et le Rwanda peut se faire sur le dos de la justice, peut se faire sur une forme d'impunité ? Est-ce que, au nom de ce besoin d'avancer, est-ce qu'on peut passer outre ? Est-ce que le Rwanda peut continuer à demander des extraditions ? Je pense notamment au cas de Agathe Habyarimana, qui est un cas très symbolique. Est-ce que le Rwanda peut, dans ce processus-là, continuer à exiger des choses et à les obtenir ?
Oui, je pense que l'idée de tourner la page ne signifie pas sacrifier la justice et sacrifier la mémoire. Je pense que l'idée, c'est plutôt de, je pense, hein, moi c'est plutôt comme ça que je l'ai compris, de partir sur de nouvelles bases, sachant qu'elles ont été pendant très longtemps très mauvaises, très toxiques. Et il faut bien l'avouer, malheureusement, essentiellement du fait de la France. Parce que il y a eu, à part Sarkozy et Macron, une position chez les hommes politiques et les décideurs français très longtemps et trop souvent, psychorigide, de déni total par rapport à toute implication française dans les événements qui se sont déroulés au Rwanda.
Mais donc, peut-être que cette réconciliation permet de disculper l'armée française.
Je pense pas aux élus rwandais.
Pas aux idées rwandaises.
Je pense pas aux idées rwandaises. Il faut pas confondre un discours fait par un président français à un an des présidentielles, dans un contexte mémoriel, mais un contexte ultra sensible, qui est aussi, qui a forcément ses limites, et la réalité qu'on vous raconte au Rwanda et les enquêtes qui se font du fait de plusieurs associations, parce qu'il y a d'autres, il y a l'association d'Alain Gauthier, mais il y a d'autres associations qui s'intéressent beaucoup, et puis il y a des journalistes aussi qui s'intéressent beaucoup à ce qui a été fait par l'armée. Il faut pas dire l'armée comme il ne faut pas dire la France. C'est pas l'armée. C'est un petit groupe de militaires qui ont pris des décisions, parfois outrepassant les pouvoirs qui leur étaient assignés. Et de même manière, ce n'est pas la France, c'est un petit groupe de décideurs qui, au nom de la France, ont mené une politique aberrante. Mais il n'y a pas eu de... Ils ont, en leur nom, engagé l'armée et le pays. Mais en réalité, il n'y a eu absolument aucune consultation ni du pays ni de l'armée. Et dans l'armée, il y a eu des gens très bien qui ont eu des réactions très saines et très vite. Je rappellerai le cas du général Varay qui, dès 91, lors d'une réunion avec un haut gradé rwandais qui lui réclame des armes, il dit « Mais pourquoi ?» Et le haut gradé lui dit « Mais c'est pour exterminer les Tutsis. Ils sont pas nombreux, on va le faire très vite. » Et Varay n'a pas cessé d'avertir sa hiérarchie jusqu'à être viré ou poussé vers la sortie. Il y en a eu d'autres comme ça, même pendant l'opération turquoise. Il y a des gens qui ont dit il y en a assez d'être applaudis par des assassins. Donc il y a des, c'est pas l'armée n'est pas en cause en tant qu'armée.
Merci beaucoup Mariam Malagardis. Kwibuka, souviens-toi, Rwanda, l'interminable traque des génocidaires. Le grand reportage de cette semaine était signé Claude Guibal et Jérémy Tuile. Réalisation Annie Brault, avec Clément Daté à la technique. Merci bien sûr comme chaque semaine à l'équipe de la documentation de Radio France. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France. Elle est également disponible sur franceculture.fr.